VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de ce journal. La République démocratique du Congo, l'UNICEF affirme avoir documenté 75 cas de personnes tuées à l'arme blanche depuis décembre en Ituri, chiffre mis en cause par les autorités. L'UNICEF se dit très préoccupé par la situation de plus de 46 000 enfants qui sont en fuite à cause des violences entre les communautés Emma et Lendu. Le gouvernement congolais a promis de renforcer le déploiement de la police avec comme mission de traquer tous les fauteurs de troubles. La crise politique au Burundi, la plateforme de l'opposition en exil, le Sénared, dénonce l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du controversé référendum constitutionnel, lequel est prévu en mai et pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ce qui se passe est inadmissible, affirme Tatien Sibomana, un des rares leaders d'opposition n'ayant pas choisi l'exil, malgré la crise depuis avril 2015. Le Sénared évoque le peu d'engouement de la population pour ce référendum. Au moins 50 militants ont été arrêtés depuis mi-décembre, accusés de promouvoir le non. Au Togo, première journée hier des travaux préparatoires en vue du dialogue politique qui démarre lundi prochain dans la capitale. Il devra réunir le gouvernement du président Faure Gnassingbé et une coalition de 14 partis d'opposition de Lomé, Kayi Lorson.
Plus de 4 heures d'horloge, c'est le temps qu'ont duré les discussions de cette première journée du comité préparatoire du dialogue. Daniel Osei, membre de la facilitation ghanéenne.
Les deux partis, c'est-à-dire le parti Unir et les 14 partis de l'opposition, se sont réunis pour définir le règlement intérieur qui va gérer le dialogue prévu pour le 19. Pour le moment, nous préférons nous limiter au fait que le comité préparatoire s'est réuni et a fait beaucoup de progrès. Quand les travaux seront terminés, vous saurez tous les détails qui ont été discutés.
Ce vendredi, les travaux vont se poursuivre probablement avec les mesures d'apaisement. Avant le début de la rencontre, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a martelé que les mesures d'apaisement constituent le chemin qui conduira au dialogue.
Ça n'a jamais dépendu de nous. On a souhaité depuis longtemps que les mesures d'apaisement soient réglées pour qu'on entre dans le vif du sujet. Peut-être que bientôt on va rentrer dans le vif du sujet avec la réalisation de mesures d'apaisement.
Le comité préparatoire poursuivra donc sa tâche ce vendredi après-midi. Kayi Lorson, Lomé, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'opposition réclame une commission électorale consensuelle. Elle se fonde sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui exige la modification de la composition de la commission actuelle. Éric Manirakiza.
D'après l'arrêt de la Cour, le gouvernement ivoirien a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. Les deux factions rivales du Front populaire ivoirien FPI ont donc saisi la balle au bon pour demander la mise en place d'une nouvelle commission électorale consensuelle. La commission électorale indépendante ou CEI est composée par 8 membres du pouvoir et 4 de l'opposition. Pascal Afinguessan, de l'une des tendances FPI, a estimé qu'un acteur engagé dans une compétition ne doit pas dominer l'instrument de sa régulation. De son côté, Abdourahmane Sangaré, chef des fondeurs du FPI, a demandé un dialogue avec le régime Ouattara, précisant qu'il ne voit pas l'intérêt d'aller à une élection en cas de rejet des discussions. Les élections municipales et régionales sont prévues cette année. En revanche, le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a rejeté les critiques contre la CEI. Pour lui, la commission est le fruit d'un consensus entre tous les acteurs politiques avant les dernières présidentielles de 2015.
En Éthiopie, peu de changements à attendre de la démission surprise hier du Premier ministre. C'est l'avis de Merera Gudina, l'une des principales figures de l'opposition éthiopienne. Ce que le peuple demande, c'est un changement fondamental, dit-il. Il est notamment question de la représentation au Parlement. Le chef du gouvernement, Haile Mariam Desalegn, a annoncé son départ hier, emporté par une crise politique marquée par des manifestations antigouvernementales sans précédent depuis un quart de siècle en Éthiopie. En Tanzanie, l'ambassade des États-Unis dénonce la violence dans ce pays après la mort d'un opposant et appelle à une enquête transparente. Yacouba Ouedraogo.
Les États-Unis se disent attristés par les informations faisant état de l'enlèvement et de la violence qui ont conduit à la mort de l'opposant Daniel John. D'après le communiqué de l'ambassade américaine, publié sur son site Internet, l'escalade des confrontations et de la violence à caractère politique est inquiétante, appelant toutes les parties à sauvegarder la paix et la sécurité du processus démocratique. Daniel John était un responsable du Chadema, principal parti d'opposition. D'après son parti, il a été enlevé lundi en pleine rue avant d'être retrouvé mort mardi dans un hôpital de Dar es Salaam, le corps marqué de coups de machette. Freeman Mbowe, chef de l'opposition au Parlement, assure que cet assassinat est lié à la campagne électorale et a été perpétré par la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir. Des élections partielles sont prévues ce week-end dans plusieurs circonscriptions pour remplacer des députés et élus locaux démissionnaires. Dimanche dernier, les évêques catholiques ont regretté ces tensions et dénoncé les violations des principes démocratiques et de la liberté d'expression par le gouvernement de John Magufuli.
Quant à l'ambassade américaine au Soudan, elle a exprimé hier ses inquiétudes après l'arrestation de certains opposants par les autorités soudanaises. Anastasie Tudiesh.
Nombre d'entre eux sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes et n'ont accès ni à leur avocat ni à leur famille, affirme l'ambassade américaine à Khartoum. Parmi les personnes arrêtées, le numéro 2 du principal parti d'opposition, le secrétaire général du Parti communiste soudanais et des militants. Le communiqué de l'ambassade intervient dans un contexte de rapprochement entre Washington et Khartoum après la levée d'un embargo américain vieux de 20 ans contre le Soudan. En 2016, le pays avait déjà été le théâtre d'un mouvement de protestation réprimé qui avait fait des dizaines de morts selon des groupes de défense des droits de l'homme. Les ambassades européennes à Khartoum ont également appelé à la libération des manifestants. Ces derniers dénonçaient la cherté de la vie après l'augmentation des prix du carburant.
Dans la région encore, un possible prochain accord pour mettre fin à la guerre au Soudan du Sud. D'après l'ONU, le dernier round de pourparlers de paix ont lieu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Pas d'accord au Sénat américain sur l'immigration. Les élus sont revenus hier à la case départ après 3 jours d'intenses tractations pour trouver une solution définitive au sort de près de 2 millions de jeunes au statut précaire, les fameux Dreamers. Toujours au chapitre de l'immigration aux États-Unis, une cour d'appel fédérale a bloqué le décret présidentiel interdisant l'entrée sur le territoire de ressortissants de 6 pays à majorité musulmane. Il s'agit d'un nouveau revers pour l'administration Trump. Abdourahman Nadia.
La décision de cette cour basée à Richmond, en Virginie, est la deuxième de ce genre prise par un tribunal fédéral après celle basée à San Francisco, en Californie. Avec un vote de 9 pour et 4 contre, la juridiction a estimé que le décret du président Trump constituait une violation de la Constitution car c'est une discrimination contre les musulmans. Les juges ont argumenté que les propos du président tenus par le passé démontraient un parti pris contre cette communauté. La Cour suprême avait permis au gouvernement de mettre en application ce décret en septembre. Pendant que le processus d'appel se poursuit, la Cour suprême doit se pencher sur le cas en avril et devrait annoncer sa décision en juin.
Aux États-Unis encore, veillée en Floride en hommage aux victimes du tueur de Parkland, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir dans cette ville de la banlieue de Miami. Avant-hier, Nicolas Cruz, un jeune homme de 19 ans, a tué 17 personnes et en a blessé 15 dans un lycée de Parkland. Plusieurs orateurs ont demandé un renforcement des mesures de contrôle des armes lors de cette veillée. Les États-Unis et la Turquie ne vont plus agir chacun de leur côté en Syrie et veulent aller de l'avant ensemble pour surmonter leur crise actuelle. Déclaration aujourd'hui à Ankara du chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson. Les deux pays ont mis en place un mécanisme commun qui va s'atteler à résoudre en priorité le sort de la ville de Minbej où se trouvent des militaires américains, mais où Ankara a menacé d'étendre son offensive contre une milice kurde alliée de Washington. L'ONG britannique Oxfam va créer une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les allégations de comportements sexuels déplacés de la part d'employés en Haïti ou ailleurs. Plusieurs d'entre eux ont été accusés d'avoir eu recours à des prostituées après le séisme de 2010 en Haïti. Ces révélations ont eu un énorme retentissement au Royaume-Uni et la directrice adjointe d'Oxfam a démissionné en début de semaine. Et puis, 38 policiers ont été blessés dans des heurts lors d'un match match de foot entre les deux principaux clubs de Tunisie, l'Espérance sportive de Tunis et l'Étoile sportive du Sahel. La rencontre de la 18e journée de championnat remportée 3-2 par l'Espérance a dû être brièvement interrompue à deux reprises, notamment en raison de fumigènes tirés par les supporters depuis les tribunes du stade de Rades dans la banlieue de Tunis. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à midi. C'était Jacques Aristide à Washington. C'était un plaisir de vous accompagner toute cette semaine. Très bon week-end sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.